Alors, on est au théâtre de la Calidoine à Saint-Angèle. Je suis avec Claude Montagnier et Coralie Émilion Languille. Bonjour.
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 Alors, on va parler de deux choses. On va parler d'une résidence qui a lieu en ce moment, donc avec Coralie Émilion Languille, et d'un spectacle que vous allez jouer également, mais qui ne sera pas le spectacle travaillé cette semaine dans la résidence, qui sera un autre spectacle. Voilà, on va expliquer un petit peu tout ça.
Donc c'est ce que tu disais, il y a deux choses. Ouais. Au départ, Coralie était là en résidence, et puis pour Écotone, donc voilà, c'était le projet. Et puis le projet, il faut qu'il soit suffisamment avancé, parce que pour nous, ce qui était important, c'est qu'il y ait une restitution. Et cette restitution, évidemment, elle pouvait pas se faire si... ça pouvait se faire... sous forme de lecture ou je ne sais, enfin, des choses comme ça. Mais finalement, on est très heureux qu'elle propose Tchernobyl, quoi. Mmh. Ouais, tu vois, c'est... Parce que bon, c'est un bouquin que tout le monde a lu, c'est un sujet très fort. Et puis, c'est un double sujet, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'histoire d'amour, qui est quand même, c'est ce qui est fort. Mmh. Et en même temps, c'est, je sais pas, c'est écologique, politique, en fait. Il y a cette dimension-là, quoi.
Donc le spectacle en question, c'est un spectacle qui est adapté de l'œuvre de Svetlana Alexeïevitch sur Tchernobyl, qui s'appelle donc La Supplication.
Oui, et ce spectacle s'appelle Valentina Tchernobyl, née pour l'amour.
Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore le travail de Svetlana Alexeïevitch, c'est assez particulier. C'était à la base une journaliste qui donc travaillait un peu comme nous là, en enregistrant avec des magnétophones. Des témoignages vraiment sur le terrain. Donc là, en l'occurrence, elle a été dans la région de Tchernobyl juste après, très peu de temps après la catastrophe. Et à partir de ces témoignages, elle tisse en fait, elle a tissé vraiment une œuvre, elle transforme complètement, elle en fait une trame très subtile en mêlant les voix de manière chorale. Enfin, voilà, c'est assez difficile à décrire, mais il faut vraiment... le lire. En tout cas, voilà, il y a ce rapport à la fois de... Elle revendique vraiment la création littéraire. C'est pas un travail de pur documentaire, mais par contre, il peut pas exister sans ce travail d'interrogation du réel et des gens, et de ce qui s'est passé, des faits.
Oui, elle a été prix Nobel de littérature 2015, ce qui est quand même pas rien. Elle écrit, oui, on sent son socle journalistique, que ce soit dans ses pièces, que ce soit dans le recueil de La Supplication. Et oui, on en parlait justement avant-hier avec Claude et Sylvie, c'était de pouvoir se rendre compte qu'on a une parole qui nous est délivrée dans La Supplication, donc un relais de témoignage. Et en même temps, on sent bien la patte de Svetlana Alexeïevitch. On sent bien qu'elle sait récupérer cette poésie, qu'elle soit cruelle ou non, hein, mais c'est quand même une poésie du vivant et de ce qu'elle reçoit de l'autre. Et ça, il faut être très doué quand même pour réussir à... C'est pas juste, ah tiens, elle a écouté, salut, quoi. Non, elle a réussi à... C'est comme si elle donnait une autre densité encore au réel. Et qui n'est pas fictionné, parce que ça ne déporte pas, ça ne met pas à côté du réel, ça l'ancre encore plus ou ça l'épaissit. Et ça, ouais, c'est une. Dans tous ses livres, d'ailleurs, on se rend compte de cette écriture, ouais, très.
Et alors, sur le point de vue de l'adaptation que vous en avez faite, donc on a dit, c'est un livre assez choral, où il y a vraiment beaucoup de couches de témoignages, et on suit plein de fils, des personnages qui reviennent un peu tout le long du récit. Vous avez choisi d'extraire un personnage qui est peut-être effectivement un des personnages les plus forts du livre, donc cette fameuse Valentina. Mmh. Voilà, et poursuivre. Alors, comment s'est fait un peu le choix déjà de ce personnage, et comment on travaille un peu en tirant un peu un fil de la trame.
Moi, j'ai commencé à lire La Supplication justement par ce dernier témoignage que j'ai adapté. Mmh. J'ai rencontré La Supplication par une autre voix solitaire que nous, en adaptant, on a appelée Valentina Tchernobyl, née pour l'amour. Et j'ai pas pu m'arrêter de le lire. Et c'est ce qui fait que je me disais tout le temps, ce témoignage est trop important, je dois porter cette voix, quoi. Et parce que c'est vraiment cette histoire dans la grande histoire. Et elle termine... Sans spoiler la fin, en disant « Je suis Valentina Timofeyevna Panasevitch, donnez mon nom, nommez-moi ». Et tout de suite, chez moi, ça a fait, ah oui, il faut porter. Ça fait partie aussi de ce pourquoi je suis comédienne et pourquoi je porte des pièces. C'est pour porter des voix de personnes qui n'ont pas forcément.
Ça a été un long travail, l'adaptation, non ?
Ça a été beaucoup de temps de lecture, beaucoup de temps... alors l'adaptation, c'est beaucoup de coupes, en fait. C'est ouais. aussi parce que, justement, c'est tellement fort, c'est tellement dur. Il y a eu aussi le passage de la lecture au plateau. C'est comment aussi tendre la main au public pour pouvoir faire en sorte que tout soit entendu oui, dans toute ça. Cette étendue. Et donc, du coup, il y a des endroits où on a coupé pour justement fluidifier et en faire théâtre. Et enfin, faire théâtre. C'est-à-dire de porter justement cette voix au mieux pour pouvoir transmettre cette femme qui est née pour l'amour et qui dit, en gros, qui raconte toute cette lumière. C'est-à-dire qu'elle voit son mari se transformer devant ses yeux, puisque c'est un des premiers liquidateurs sur le site de Tchernobyl, et elle le voit avoir un des premiers cancers de la thyroïde. Et là, elle le voit se transformer devant ses yeux, et elle explique, qu'en fait, ils prennent conscience de ce qui s'est passé, parce qu'ils ne se rendaient pas forcément compte. Et elle, malgré tout, elle s'accroche à ça, à l'amour qui était déjà là, et qui continue à être là, même après qu'il soit décédé. Et elle n'est pas non plus dupe. C'est-à-dire qu'elle explique que par les livres, parce qu'elle essaye de comprendre ce que c'est que la mort, ce qui s'est passé, où il est, comment tu fais avec le deuil, comment tu fais avec ces choses, cette grande histoire dans la petite histoire dont je parlais, et d'être fauchée. En fait, ce témoignage, pour moi, comme tu disais, Claude, il y a toute cette intime qui est portée, cette lumière, cet amour. Et aussi cet ancrage politique qui fait que elle pose aussi des questions de qui on est, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça veut dire quoi? À un moment donné, elle dit on m'a remis une enveloppe rouge ornée du portrait de Lénine. Mais le portrait sur la pochette, il n'a pas bougé, lui. Et tu vois, il y a vraiment ce truc de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce qui nous gouverne? Comment on fait avec ça? Et tu sens que cette parole que Svetlana Alexeïevitch a relayée, comment donner à entendre cette atrocité de Tchernobyl, mais aussi la lumière de cette femme. Et à chaque fois, j'avais en tête aussi, quand je voyais des images de Tchernobyl, il y a des albums de photos, des documentaires, c'est horrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que parfois, c'est trop, et je referme. Je peux pas, c'est trop, quoi. Et ça, le théâtre... Et la lecture fait qu'il y a tout un imaginaire, on ne ferme pas, on entend, et on rentre dedans. Même si parfois c'est horrible, hein, franchement, mais surtout, comme cette adaptation aussi a été comment moi je peux porter cette voix sans que les gens aient envie de dire « oh là, c'est trop ». Par contre, on passe pas de la chantilly, hein, on n'enlève rien, on n'a pas édulcoré quoi que ce soit. Mais de pouvoir dire « je suis quelqu'un comme tout le monde ». Ce qui m'arrive à moi, ça pourrait arriver à n'importe qui. Donc t'en vas pas, quoi. Et il y a de ça. Donc il y avait ça aussi en tête sur comment l'adapter et les choix qui ont été faits dans ce dernier témoignage. Je ne suis pas allée piocher dans les autres témoignages. J'ai vraiment pris cette dernière partie d'une autre voix solitaire. Pour moi, aujourd'hui, quand je le porte à chaque fois, et c'est pas la première fois, et ça fait longtemps que je joue cette pièce, et je pense que je la jouerai longtemps, je me dis c'est la première fois qu'elle a parlé, et peut-être qu'elle ne parlera plus jamais après, à ce point-là, de tout ça. Et quand je le joue, il y a vraiment cette chose où je pense à elle, et je me dis, ok, il y a quand même quelque chose où je vais porter cette voix, et c'est un moment presque sacré, presque unique. Comme à chaque fois qu'on joue, quand même, on n'est pas devant le même public. Mais en tout cas, moi, j'y vais avec ce truc-là de me dire, OK, c'est la première fois qu'elle va parler et peut-être la dernière fois qu'elle parlera comme ça.
Le sujet est unique aussi, puisque, en fait, il découvre ce qu'est un accident nucléaire incroyable, quoi. Là, tout le monde entier est pétrifié, quoi. Ouais. Même quand on voit des images, on voit bien qu'ils ne savent pas comment arrêter tout ça. Et donc il y a plein de gars qui sont sacrifiés comme ça, parce qu'on ne sait pas comment faire. On est dépassé par... l'humanité est dépassée, d'ailleurs. On dit, c'est les Russes, ils n'étaient pas au point, mais enfin, on a vu qu'il y avait Fukushima. C'est un sujet fort, quand même, ça. Et donc, comment on fait pour tout ça? Comment on fait?
Ouais. C'est exactement ça.
Et donc, dans le privé, enfin, je veux dire, ça, c'est une histoire privée, on peut dire ça. Mais quand même, ben, dans le monde, il existe No Man's Land où on ne peut plus aller parce qu'il y a eu cet accident. Mm. C'est quand même la première fois. Oui. Donc, c'est la première fois pour beaucoup de choses, cet événement-là.
Mm. Oui, c'est ça, c'est la première fois. C'est... Oui, c'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Il est parti à Tchernobyl. D'ailleurs, elle dit, il est parti à Tchernobyl le jour de mon anniversaire. Il s'invitait encore à table, il s'est excusé, m'a embrassé, voilà, on l'envoyait. Enfin, les choses étaient tellement... Voilà, il partait en tant que pompier, comme d'habitude, et quand il est revenu, bah, c'était pas comme d'habitude. Et oui, du coup, c'était, on les voit bien, les archives, avec leurs pantalons blancs et leurs costumes, c'est du papier. Enfin, absolument, je veux dire, tu te retrouves, ils se sont retrouvés confrontés à des choses radioactives... Et oui, comment on fait aujourd'hui, et de voir ben voilà, les accidents nucléaires, qu'est-ce que c'est que l'écologie, comment on se place dans ce monde, et quel choix on peut faire aussi. Et c'est là où ça rejoint la résidence des Cotton, qui, le travail qu'on fait avec Laure Montagnier, justement, qui est vraiment une partenaire importante sur, dans mon travail, justement, depuis quelques années maintenant, qui est une scénographe vraiment... vraiment absolument pointue, aiguisée et très, très humaine, et qui, avec qui c'est un vrai bonheur de compagnonner. En fait, l'idée, c'était, c'est dans Ecotone, c'est de travailler justement sur les nouveaux territoires en lien et en rapport avec l'écologie. Et comme j'ai toujours cet ancrage qui m'intéresse, c'est-à-dire cette lisière entre le documentaire et la fiction, là, on voit bien, hein, Valentina, c'est un témoignage, c'est une histoire vraie. En fait, je me suis posé la question de... OK, on a le réchauffement climatique, on a tout ça. Le constat 20, c'est on va tous mourir. Bon, OK, moi, j'ai un enfant, il a 8 ans. et du coup, qu'est-ce que je lui réponds? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai répondu à cette question en allant à la découverte de ce que les gens, comment les gens vivent. Et donc, j'ai rencontré un agriculteur, Antoine Paquier, qui est dans les Deux-Sèvres, qui travaille vraiment le bocage, lui. Et donc, et il élève des vaches, et il est sur 100 hectares de ferme où il travaille sans pesticides, sans... il est dans un rapport au vivant qui est vraiment essayer d'être au plus près du naturel et de faire au mieux pour ses vaches et pour ce qu'il fait pousser. Et puis j'ai rencontré des agriculteurs, des scientifiques, des artistes, pour pouvoir aussi voir comment eux ils font avec leur rapport avec la nature, avec le vivant, et quelles sont leurs réponses en fait au quotidien. Et en fait on se rend compte qu'il y a des territoires où des gens, enfin ben moi, ma réponse à mon éco-anxiété, à... comment je fais avec ce monde-là, avec ce réchauffement climatique ou je ne sais quoi, eh bien, il y a des solutions qui sont là. Il y a des manières de vivre. Ça peut être une réponse artistique, comme là, nous, ce qu'on est en train de déployer sur Ecotone. Ça peut être une réponse scientifique. Ça peut être une réponse... On cherche tous quelque chose à comment on vit. Et en fait, une des réponses qui est venue, en rencontrant plein de gens, c'est en fait une faire écologie. Qu'est-ce que c'est que l'écologie? Parce que c'était ça aussi la question, c'est qu'est-ce que je fais, quoi? Et c'est pas que faire partie du groupe écologique, ça n'a rien à voir, en fait. C'est l'écologie, on en est arrivé à se dire que c'était faire écologie et faire sérendipité, c'est-à-dire faire rencontre. Si je prends une rencontre avec l'autre, qui peut être un arbre, un papillon ou un être humain, et bien en fait, il y a une rencontre qui se fait. Et du coup, c'est précieux, j'en prends soin. Et de là, je peux nourrir... Bah, du nouveau. Parce qu'en fait, un écotone, c'est quoi? C'est une zone entre deux zones. Donc, c'est entre la forêt et la prairie. Il y a une troisième zone, l'orée du bois. Et cette troisième zone, comme la roselière, comme la mangrove, c'est l'écotone. Et dans cet écotone, il y a une biodiversité plus, plus, plus. Parce que ça n'est pas de la forêt, ça n'est pas de la prairie, c'est un troisième endroit avec du possible. Et en fait, on s'est emparé de cette notion d'écotone, qui est utilisée en environnement, en permaculture... pour s'en emparer aussi poétiquement et politiquement, en se disant, bah, si je rencontre l'autre et que je le vois comme quelqu'un qui est, où on a du commun ensemble, mais on a aussi du singulier, de la différence, et si on est dans un espace de sécurité, bah, moi, je peux apporter des choses à Claude, Claude peut m'apporter des choses, et entre nous, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Et c'est ce nouveau qui a chérir. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Et là, bah, du coup, pour moi, une des réponses que je pourrais donner à mon fils, c'est bah, faire écologie, c'est regarde le monde et essaye de l'écouter. Quoi.
Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpellait. Vous parliez de la manière dont vous travaillez sur Ecotone, donc le spectacle en résidence. Vous avez l'air d'avoir fait un peu des recherches, des entretiens. Mm-hmm. Et, donc, peut-être qu'il y a un écho au travail de Svetlana Alexeyevitch, ouais. Peut-être.
Oui, c'est comme je disais, c'est-à-dire qu'une de mes recherches, et depuis toutes ces années maintenant, j'aime. Il semblerait, c'est comme ça, c'est ce qui porte ma nécessité de créer. C'est de relayer des voix et d'être dans cette lisière du documentaire et de la fiction. Et donc oui, quand je lis la supplication et que je vois que ce sont des témoignages et ça me percute au point que je me dis il faut que je le porte, eh bien moi aussi quand je cherche sur Ecotone la matière du vivant, je me dis je ne peux pas aller chercher que dans les livres. Le vivant, c'est les gens, quoi. Donc il faut que j'aille à leur rencontre. Oui, quelque part, il y a une... Il y a une infusion, peut-être, une manière de rencontrer... le monde qui a été sûrement posé par des jalons comme Svetlana Alexeyevitch, mais aussi par des documentaires. Enfin.
Et donc, pour écouter la voix de Valentina, rendez-vous ce vendredi, donc à 20h30, au théâtre de la Calydone à Saint-Eugène, qu'on connaît bien maintenant.
Oui, voilà, exactement, 20h30 pile, et on pourra entendre cette magnifique voix portée magnifiquement. Par Coralie.
Ben merci Coralie.
Merci beaucoup.
Merci Claude.
Ben merci.
Tout récemment encore, j'étais tellement heureuse. Et j'ai oublié pourquoi. C'est rester dans une autre vie. Je comprends pas. J'ignore comment j'ai pu revivre. Je l'ai voulu. Je l'ai voulu. Et voilà, je ris. Et je parle. Mais j'étais tellement angoissée, comme paralysée. J'avais envie de parler à quelqu'un, mais pas aux gens. Alors j'allais à l'église, et là, tout est calme. Comme à la montagne. Très calme. On peut y oublier sa vie. Je me réveille le matin. J'étends la main et je tâte son oreiller, son odeur. Chérie, un petit oiseau inconnu sautille sur le rebord de la fenêtre avec une petite cloche et me réveille. Jamais auparavant, je n'ai entendu un son, un timbre pareil. Bon, c'est impossible de tout transmettre. Je parviens pas à tout exprimer. Je comprends pas comment je suis restée en vie. Le soir, ma fille s'approche. « Maman, j'ai appris mes leçons !» Je me souviens alors de ce que c'est que d'avoir des enfants. Mais où est-il ? « Maman, faut me recoudre un bouton !» Comment puis-je le suivre ? Le rencontrer. Je ferme les yeux... Et je pense à lui jusqu'à ce que je trouve le sommeil. Il vient me voir la nuit lorsque je dors, mais furtivement, rapidement. J'entends ses pas. Mais où s'en va-t-il ? Il avait une telle envie de vivre. Il regardait sans cesse le ciel par la fenêtre, et moi, je lui plaçais un coussin derrière le dos, un deuxième, un troisième pour qu'il puisse se relever. Il mourait lentement. Une année entière, et nous ne pouvions pas nous séparer. Non mais, ne craignez rien. J'ai désappris à pleurer. Je veux parler.